Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. Je vous propose que nous fassions une lecture dans l'évangile de Matthieu, et nous allons en effet tirer parti de ces quelques informations que Jésus nous laisse. Alors, je rappelle Matthieu chapitre 7, verset 24. Je lis donc: « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous allons retenir simplement, et je le relis, cette phrase. Il nous est dit, celui qui entend les paroles que je dis, celui qui m'écoute ou qui n'écoute pas, est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alors nous allons évoquer les sables mouvants. Ce qu'il y a à retenir, de cette instabilité du terrain, des terrains. Alors, les sables mouvants, nous pouvons dire et être conduits finalement dans notre réflexion qui résume tout simplement les espoirs trompeurs de l'existence. Les sables mouvants, c'est un enchaînement dans ce que nous allons nous approprier dans notre réflexion. C'est un enchaînement de brèves histoires évangéliques que nous trouvons naturellement, et en particulier dans l'évangile de Matthieu, qui témoignent des réalités de notre monde actuel et de toujours. C'est intéressant parce que nous pouvons mesurer à travers ces deux caractères, le roc, le rocher, la stabilité du terrain, et puis avec son contraire, c'est-à-dire ce qui bouge, ce qui est instable. Et nous voyons qu'il y a deux personnages qui nous sont présentés. Il y a le fou, le sage, l'insensé, et qui se termine par la folie. Nous allons passer par le détail de ce que j'appelle la folie, quelque part. Et nous voyons que les sables mouvants, à l'état naturel, nous en avons par chez nous, là sur le bord de mer, sont le reflet d'une fondrière mortelle. Il y a des régions, certainement dans notre pays et ailleurs dans le monde, où c'est beaucoup plus caractérisé, et on parle souvent du Mont Saint-Michel, parce que dans cette baie, il y a là, en effet, des marées qui sont très, très hautes, très fortes, et quand ça se retire, on pourrait dire que c'est une étendue présente de grands risques de s'y aventurer. Et dans cette fondrière mortelle dans laquelle l'humanité s'enlise, elle s'agite et elle disparaît. C'est un phénomène de succion, d'englument en quelque sorte. Et on sait tous ce que c'est que la glu. C'est-à-dire que quand on a mis la main ou le pied dedans, on ne peut plus s'en sortir, tout simplement. J'ai appelé ça, c'est peut-être pas le terme tout à fait approprié, mais j'ai appelé ça tout simplement l'englument. C'est-à-dire que ça engloutit dans les bouts de vase et dans le sable mêlé jusqu'à l'enfouissement total. C'est quelque chose de terrible. Il y a eu certainement, peut-être moins maintenant, parce qu'on est prévenu, il y a des pancartes, il y a des avertissements, toutes sortes de choses, et puis les gens d'une région savent se passer le message du danger que courent ceux qui s'aventurent sur ces terrains-là jusqu'à l'enfouissement total. Et nous apercevons que dans ce qui peut nous être apporté, plus tout simplement la victime s'agite, plus elle s'enfonce profondément. Et il est parfois recommandé, il y a des moyens d'être secouru naturellement, Mais comme vous êtes tout seul, il y a des moyens peut-être de pouvoir pallier à ce que nous puissions nous maîtriser et ne pas piétiner le terrain, parce qu'à chaque fois que l'on piétine ce terrain instable, eh bien on s'enfonce toujours davantage. Et c'est vrai que je dis plus l'aventurier, on pourrait peut-être lui donner ce nom, s'agite, plus finalement il s'enfonce dans cette glu, dans cette boue. Et l'effort pour échapper, plus et ajouter à cela, eh bien l'angoisse s'amplifie, plus la mort s'affirme. Nous avons toujours cette image qui a été relayée par les télévisions du monde entier. Peut-être certains ne connaissent pas, mais c'était en 1985, en Amérique latine, d'une petite fille d'une dizaine, 10, 12 ans, je crois, qui s'appelait Homera. Elle était donc, je crois, au Pérou. Il y a eu une éruption volcanique et elle est tombée dans une faudrière. C'est une région qui a été complètement dévastée par ce séisme. Et on a présenté devant toutes les télévisions, ils se sont finalement précipités parce que c'était un événement à la fois horrible et épouvantable. Et ils ont assisté à l'agonie de cette petite fille que l'on ne pouvait pas sauver. Ça semblait finalement quelque chose au premier regard de facile pour la sauver, mais ils n'ont pas pu la sauver. Elle avait de la boue jusqu'au niveau du menton et tout ça, et elle s'est enfoncée tout doucement. Et naturellement, elle a complètement disparu. Et ça, c'est quelque chose d'épouvantable, de terrible. Alors, nous allons donc nous avancer un petit peu plus, prudemment, naturellement, dans ces sables mouvants. Et j'avais dit tout à l'heure que ce sont les... On peut le mettre en comparaison avec tout simplement la vie, l'existence humaine, et à travers toutes sortes d'espoirs trompeurs qui nous emportent. Alors, en sable mouvant, nous allons donner quelques, je l'ai signalé tout à l'heure, de brèves histoires qui nous sont rapportées par l'Évangile. Pour certaines, elles font partie des paraboles, des enseignements de Jésus. Pour d'autres, nous les trouvons dans l'Ancien Testament, peu importe. En tous les cas, la Bible nous parle de cette instabilité, sur quoi nous marchons, là vers quoi nous allons, lorsque nous franchissons certaines interdictions, certaines frontières, où nous sommes prévenus qu'il y a danger. Des dangers, il y en a partout. La vie, elle est pleine de pièges, de traquenards, de dangers. Alors la première chose, les sables mouvants, Jésus nous en parle, entre autres, aussi l'Ancien Testament, il fait écho justement à ces espoirs trompeurs. Je citerai tout simplement l'argent et les richesses illusoires. Nous avons un épisode qui nous est rapporté dans les premiers livres de la Bible, c'est l'histoire du veau d'or. Les Hébreux vont sortir d'Égypte et à un moment donné, ils vont être dans l'isolement complet, dans ces sables infinis du désert, Sinaï ou autre, peu importe. Et nous voyons qu'il va y avoir des conséquences même sur la foi, sur la vie spirituelle des Hébreux. Et à travers l'or, l'argent, les richesses illusoires, nous avons cette histoire donc du veau d'or, où les Israélites vont complètement dénaturer l'image de Dieu, que Dieu veut se montrer à son peuple, les Hébreux, et qui vont être les principes, vont être enseignés par Moïse. Et nous voyons que tout cela pour en faire une idole. Et nous voyons qu'en tous les cas, s'il y a des sables mouvants, c'est bien finalement la séduction, la convoitise d'être riche, de s'enrichir, et de penser qu'avec ces moyens-là, ces moyens terrestres, qui ne sont que des moyens et non pas des buts de l'existence, nous voyons que beaucoup d'hommes, la grande majorité de notre humanité, a été à la recherche finalement de ces valeurs, mais des valeurs illusoires. Et nous savons, Seigneur, que tout cela, ça a engagé toutes sortes de conflits, toutes sortes de difficultés. D'ailleurs, c'est le Nouveau Testament qui nous dit ceci, que à travers cette recherche, c'est la racine de tous les maux. C'est Paul qui le dit à Timothée, la racine donc de tous les maux. Et ça, forcément, ça dénature l'image de Dieu, la conception que nous pouvons avoir de Dieu, la grâce qu'il nous fait, et puis les avertissements qu'il nous donne pour ne pas nous enliser dans ces sables mouvants, des fausses valeurs. Donc il y a naturellement derrière tout cela une autre forme de sable mouvant, ce sont les feux de la réussite. Alors qui dit argent dit naturellement succès, réussite et les dangers du pouvoir, parce que finalement tout ça, ça s'enchaîne en quelque sorte. Ça commence par la convoitise, hein, en disant voilà, l'argent va être notre Dieu, nous allons être à l'abri de ceci et cela, nous allons pouvoir vivre une vie certainement plus confortable. Enfin, nous connaissons naturellement, eh bien, on pourrait dire peut-être le refrain. Donc les feux de la réussite et les dangers du pouvoir. Et nous avons un roi particulier qui s'appelait Osias, dans le livre des Chroniques, qui va être béni de Dieu, qui va recevoir finalement avec la bénédiction de Dieu, on peut dire, hein, il n'est pas arrivé comme ça, mais qui va avoir une prospérité extraordinaire pour lui en tant que roi et également pour son peuple. Et à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose qui va intervenir dans son cœur, il va se prendre pour Dieu. On avait parlé de Dieu dénaturé il y a un instant, mais là il va se dire, eh bien moi je suis Dieu puisque j'ai tout pour moi. Finalement, il avait gagné il avait eu des victoires dans ses guerres, il avait de l'argent, il avait là un royaume qui était en pleine prospérité. Et nous voyons que tout ça, c'est un sable mouvant aussi. Lorsque la folie du pouvoir, de la puissance, de la bénédiction même de Dieu, si nous n'y veillons pas. Parce que Dieu est le donateur de toutes choses, mais nous, nous en sommes que les dispensateurs, nous en sommes, enfin, les utilisateurs plutôt, je rectifie. Les utilisateurs. Donc, l'argent, les richesses injustes, le succès, la réussite, le pouvoir, les dangers. Et puis, il y a une troisième petite anecdote qui peut nous être proposée également, c'est les sables mouvants d'une existence prospère. C'est toujours la suite de ce que nous sommes en train de... Nous progressons sur ces sables mouvants, en quelque sorte. Donc, une existence prospère, mais sans perspective d'éternité. C'est-à-dire qu'il y a deux grands critères, il y a la vie ici-bas, et puis il y a la vie dans l'au-delà également. Et nous voyons que déjà, nous avons vu dans le premier cas, le visage de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu est lui-même en tant que créateur et sauveur, est dénaturé à travers l'effigie d'un veau d'or en quelque sorte. Nous avons vu les pouvoirs, que la soif de pouvoir qui nous éloigne finalement eh bien, de Dieu. Et puis nous avons également cette prospérité qui va nous conduire eh bien, à oublier que nous avons été créés, non pas pour la terre, mais nous avons été créés pour le ciel, même si la terre est une école pour apprendre, une école pour choisir entre le bien et le mal, entre les vraies et les fausses valeurs, à travers la vérité et l'erreur, et puis toutes sortes de choses. Et Jésus nous le montre d'ailleurs à travers un passage très connu d'ailleurs dans l'évangile de Luc au chapitre 12, je ne cite pas et je ne me reporte pas à ce texte, il suffit tout simplement de le relire par vous-même, mais c'est l'histoire d'un homme aussi, toujours au niveau de ces sables mouvants de la prospérité. C'est un paysan qui a travaillé toute sa vie, il a certainement travaillé honnêtement, et là à un moment donné, au moment où eh bien, il se sent que le temps est fini pour de travailler, de donner... eh bien, finalement, toute son énergie, il va dire, voilà, je prends ma retraite maintenant, j'ai des greniers qui sont pleins, j'ai une véritable entreprise, hein, je suis là vraiment arrivé, j'ai beaucoup d'argent, etc., etc. Et on connaît l'histoire, naturellement, parce qu'il avait des perspectives de vivre encore certainement longtemps, et il y a une voix qui lui parle une nuit, et qui lui dit, eh bien, maintenant, pour qui et qu'est-ce que va devenir toutes ces richesses que tu as amassées où tu as travaillé, c'est vrai, pour les avoir, tu ne les as pas volés, mais tu as oublié l'essentiel, c'est que tu as confondu les moyens d'existence avec les buts, finalement, de l'existence que je t'ai donnée, de la création hein, que je t'ai faite. Alors, cette voix lui dit tout simplement, eh bien, cette nuit-même, tu vas mourir. Alors, pour qui cela sera-t-il? Et nous voyons que là, c'est aussi un sable mouvant, lorsque nous mettons, en quelque sorte, eh bien... nous ne faisons pas attention que toute notre vie est en préparation pour le ciel, et un ciel dont la Bible nous parle, parce que ça sera véritablement eh bien, la gloire, ça sera à la fois une dimension que nous ne pouvons pas nous imaginer, parce que la terre c'est la terre et le ciel c'est le ciel, nous pouvons dire, et cela pour l'éternité. Donc les croyances existentielles, et nous avons naturellement eh bien, ce cas de ce paysan qui ne réfléchit pas, qu'après la mort, il y a encore une autre dimension, qui est une vie à jamais, une vie éternelle. Il y a la religion également qui est un sable mouvant. hein, ou des sables mouvants, où nous nous dès notre venue au monde, dans les pays où il y a des croyances, où il y a naturellement ce souci de l'existence de Dieu, c'est ce qui nous est aussi présenté à travers ce que Jésus nous dit donc dans Colossiens, quand il est dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou toutes sortes de croyances, etc. etc. Donc il faut vérifier, Dieu ne sauve pas à travers la religion, il ne sauve pas les hommes à travers des légendes, à travers des fables, à travers des contes, toutes sortes de choses, religion soit-elle, quelle qu'elle soit, mais véritablement à travers le message de l'évangile qui nous présente Jésus comme sauveur et seigneur, unique sauveur et seigneur. D'ailleurs, il le rappelle à travers ces paroles que nous connaissons tous, « Je suis le chemin, c'est par moi ». Un chemin qui n'est pas une fondrière, qui n'est pas, là, une voie sans issue. Prenez garde que personne, ne se fourvoie, là, et que vous deveniez captif d'un communautarisme, c'est ce que l'on dit aujourd'hui, d'une chapelle, d'un clocher ou des choses comme ça, que ce soit chrétien ou non chrétien, parce que les religions, elles sont multiples, naturellement, dans ce monde. Et puis, il y a cette... Également, comme sable mouvant, nous pouvons également dire toutes ces idéologies d'un monde en apparence abouti, mais où Dieu n'existe pas ou n'existe plus. Ce sont les philosophies, nous pourrions dire, qui sont peut-être détachées des religions, mais qui quelque part sont une manière d'envisager la vie, d'envisager l'existence, de gérer finalement notre vie, et qui n'ont plus rien à voir avec Dieu. C'est de l'athéisme, par exemple, on peut le citer. Et ce que Dieu dira dans le livre de l'Apocalypse, il nous citera l'église de Laodicée particulièrement, il dira ceci: « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, que tu as abandonné ce que moi j'ai fait pour toi pour que tu puisses être sauvé et que tu puisses... vivre une dimension tout à fait différente, mais surtout, n'oublie pas que je suis ton Dieu, je suis ton sauveur. » Et puis il y a également ce qui fait partie finalement de la subjectivité, qui est une réalité quand même, mais ce que nous appelons dans notre monde l'amour et les passions qui sont dépourvues de morale et de conscience. Et dans Romains, par exemple, il est dit que les hommes, dans les derniers temps, se vantant d'être sages, sont devenus fous. À travers leur idolâtrie, on a parlé du veau d'or, à travers la soif de pouvoir, on l'a cité tout à l'heure, également à travers une satisfaction de la vie, mais que notre vie ne nous appartient pas, elle peut nous être reprise d'un moment à un autre. Ça peut être également, à travers un rejet de Dieu où Dieu n'existe pas dans notre existence. Et tout cela laisse la place à toutes sortes d'amour et de passion. Alors pour des choses secondaires, forcément secondaires, mises en rapport et en parallèle avec l'Évangile. L'amour, la passion, où il n'y a plus de morale, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, parler de morale, c'est quelque chose qui fait frémir un peu les gens en disant « mais bon, ça semble tellement arriéré et sans conscience ». Et c'est pourquoi il est dit à un moment donné, se vantant d'être fou, non, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Et puis, on peut y ajouter également, la dictature du plaisir. C'est un sable, ça peut dire, ce sont des sables mouvants. La dictature ou les dictatures du plaisir, la consommation, tout simplement de la jouissance, sans entrave. Là, c'est véritablement la caractéristique de notre monde d'aujourd'hui, Aujourd'hui, je pense que les gens vivent pour jouir, pour le plaisir, pour consommer ceci et cela, et c'est jamais assez. Il y a là une insatisfaction incomplète, et puis, disons-le aussi, sable mouvant, c'est ce que nous vivons dans les moments qui sont les nôtres avec les conflits que nous avons dans le monde. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a un majeur qui semble nous toucher de près et qui certainement est un imminent danger pour nos pays occidentaux, c'est tout simplement l'appétence pour la violence. Alors la violence, elle n'est pas seulement sur les champs de bataille, elle n'est pas seulement en Ukraine ou en Russie, Hein, mais cette appétence, cet appétit, ce désir d'en découdre, de vaincre, de dominer, toutes sortes de choses semblables, pour la violence, pour le sang et la guerre. Et là, c'est un marécage. On peut dire que c'est un marécage et un enlisement. Et on se souvient des guerres passées, à travers les tranchées, où pendant des années et des années, eh bien là, les ennemis se font face. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les tranchées et ils s'enlisent. Et la guerre dure. Et ça, c'est quelque chose, donc, ça, c'est, on peut dire que c'est vraiment le sable mouvant par excellence. Que dire encore de ces sables mouvants? Peut-être pouvons-nous nous citer également, ça concerne la jeunesse, l'espoir de jeunesse éternelle. Combien on veut vivre, et on veut vivre le plus vieux possible, en oubliant qu'à un moment ou un autre, il va falloir mourir, il va falloir disparaître, parce que c'est la loi de la nature. Et c'est comme ça, et personne n'est passé au travers. Jamais. Alors on se bat. Hein, on se bat en piétine, on trépigne, et plus on va, plus on s'enfonce. Hein, des gens veulent se refaire faire le corps complètement pour avoir l'air, toujours avoir l'air de 20 ans, ou un peu plus, plus ou moins, nous pourrions dire. Hein, parce que ça, c'est quelque chose. On ne veut pas vieillir. Hein, et alors on se donne toutes sortes, j'ai cité le nom, hein, tout simplement d'élixirs de jouvence. Voilà. Et, mais c'est inéluctable. Et je crois qu'il faut se souvenir de ce que nous dit le Nouveau Testament. Je crois que c'est Paul qui nous en parle. Il nous dira, mais n'oubliez pas que dans ces sables mouvants, et pour se prévenir de ces sables mouvants, une chose qui va, c'est presque un paradoxe. C'est vrai que le corps se dégrade. C'est vrai qu'il vieillit, c'est vrai qu'il souffre, c'est vrai qu'il vient là, eh bien, va vers son aboutissement. Mais d'un autre côté, par rapport à ce vieillissement, disons le mot le plus simple, hein, par rapport à ce vieillissement, il y a un renouvellement, une renaissance, un renouveau à l'intérieur de vous-même. Et normalement, la vieillesse devrait nous apporter la sagesse. Elle devrait finalement nous communiquer, eh bien, qu'il y a là une espérance très forte. Et plus nous allons vers le moment du départ, et personne ne peut l'arrêter, c'est comme ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que plus nous portons des rides, hein, plus nous avons des cheveux blancs, enfin ça c'est les signes les plus communs, mais plus à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous avons la foi, lorsque finalement nous n'avons pas fait de notre vie un veau d'or, que nous n'avons pas finalement usé des quelques avantages de puissance, de pouvoir, ou etc., etc., mais que nous avons laissé véritablement une œuvre, un fruit de l'esprit à la ressemblance de Jésus-Christ, alors à ce moment-là, il y a un renouveau en nous. L'un vieillit et l'autre naît. Et c'est ce que Jésus nous enseigne, à travers cet aboutissement qui sera la résurrection, en quelque sorte. C'est vrai que nous pouvons regretter, et ceux qui nous ont précédés, ceux que nous aimons, qui sont là, vivants, sur cette terre aujourd'hui, hein, qui sont nos affections essentielles. C'est vrai que nous les connaissons à travers leur corps, mais nous devons savoir que si véritablement il y a une œuvre de l'esprit en eux, eh bien, nous allons exactement dans le contraire du naturel, c'est-à-dire que nous renaissons, nous nous renouvelons, nous nous épanouissons pour qu'au jour où véritablement le Seigneur nous reprendra dans son ciel de gloire, alors à ce moment-là, ça sera un plein épanouissement. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Alors attention, parce que hein, cet espoir de jeunesse éternelle et tous ces élixirs qui nous sont là vendus, hein, on sait ce que ça veut dire, hein, la publicité est là pour nous le rappeler, eh bien, il est dit, dans des temps de ta vie, dans les temps où tu as la santé, dans les temps où tu as eh bien, les capacités, dans les temps... Mais souviens-toi de ton Créateur avant que des jours mauvais n'arrivent. C'est ça. Parce que les jours, lorsqu'ils vont arriver, s'ils sont mauvais, tu auras au moins des ressources à l'intérieur. Les rides viendront, tu ne les empêcheras pas. Les cheveux longs pousseront aussi. Ils remplaceront peut-être les blonds et les bruns. Mais une chose qui est certaine, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Il y a également, eh bien, comme autre aspect et autre parallèle que nous pouvons faire avec les sables mouvants, c'est en qui mettre sa confiance. Ça, c'est la question des questions. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je aujourd'hui? Beaucoup de gens ne connaissent pas leur identité réelle et ils sont malheureux à travers toutes sortes de travers ou toutes sortes de troubles psychologiques, hein, neurologiques, on pourrait dire, peut-être même encore davantage, je ne cite pas, mais toujours est-il, mais... En qui devons-nous mettre notre confiance? Nous arrivons finalement, eh bien là, à quelque part, savoir que Il suffit qu'il y ait un rocher au-dessus du sable mouvant, et bien à ce moment-là, nous n'allons pas nous enfoncer davantage. Et je crois que c'est encore quelque part, et bien, ce rocher qui est en dessous. Mais ça, nous ne le savons pas, parce qu'il y a des terrains où il y a cette caractéristique, le phénomène du sable mouvant, ben, c'est une fondrière et puis il n'y a pas de fond, en quelque sorte. Mais il y a quelque chose qui doit pouvoir nous permettre eh bien, de remonter et de pouvoir dire que eh bien, si nous nous sommes enfoncés, si nous nous enfonçons encore et que nous sentons qu'il y a du solide, alors à ce moment-là, surtout que Jésus est souvent présenté comme la pierre angulaire, il est souvent présenté comme le rocher, il est présenté comme celui qui eh bien, est un roc en quelque sorte. Alors, en qui mettre notre confiance? C'est une question que nous devons nous poser lorsque nous nous enfonçons dans tous les travers que nous avons cités il y a un instant. En Dieu ou en l'homme mortel? Quel sera notre choix? Et nous voyons qu'il y a tout un psaume que l'on appelle le psaume 49. Je crois que c'est David qui l'a écrit. Et qui dira, mais l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Comment ferait-il pour sauver son âme? Puisqu'il n'y a qu'un sauveur, et ce n'est pas l'homme par ses mérites, hein, par ses capacités, par son inventivité, par ses capacités physiques, morales, hein, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas ça. Il ne peut pas rester son âme, parce qu'il n'y a qu'un sauveur, quoi qu'il en soit. Et parce que là, nous avons quelque chose qui nous met tous à l'égalité, c'est tout simplement le sort final. Et il y a deux destinations, et deux destinations qui sont opposées. Le salut en Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, par laquelle nous pouvons finalement sortir de la boue, de toutes ces choses qui sont terribles dans notre monde, ou alors à ce moment-là, eh bien, il y a cette destination qui nous fait remonter vers le ciel. Puis je terminerai tout simplement à travers eh bien, deux choses sur lesquelles les hommes aiment bien jouer. Ce sont des sables mouvants également, il faut le dire. Tout simplement, la chance ou la grâce. La chance. C'est dans le langage courant chez les gens. Hein. J'ai de la chance. Et puis, je tente ma chance. Je me mets sous ma bonne étoile. J'invoque ceci et cela parce que c'est porteur de chance. Tout ça, c'est pour contrer le malheur. C'est pour contrer les sables mouvants dans lesquels nous nous sommes volontairement, peut-être, enlisés. Et alors, à ce moment-là, on aime bien avoir des paravents, on aime bien avoir des pare-feux, on aime bien, et on l'appelle la chance. On se dit, et on est prêt à faire n'importe quoi, hein, pour avoir de la chance. Et on terminera justement là-dessus, parce qu'il y a des gens qui comptent sur leur bonne étoile, et ils vont la chercher où, leur bonne étoile? Eh oui, surtout que nous avons une comparaison flagrante et quelque chose d'extraordinaire quand Jésus nous donne, qui nous dit « Je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis l'étoile brillante du matin. » Alors, est-ce que Jésus est une bonne étoile? Non. Ça, c'est pour les hommes qui ne croient pas. C'est pour les incrédules. C'est pour ceux qui sentent qu'ils s'enfoncent et qu'ils essaient de se rattraper avec des moyens puérils, des moyens inutiles, des moyens sans intérêt, en parlant de chance et de bonne étoile. Et quelquefois, ils vont très près du danger, encore plus loin peut-être que les autres, à travers cette tentation d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des consolations, d'aller chercher des délivrances, des guérisons peut-être, et bien à travers ce monde qui est le monde de l'occulte, le monde des ténèbres et de l'astrologie. Et nous voyons que c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Alors on a tout simplement et bien parlé des sables mouvants, et de savoir, j'ai fait tout simplement une petite liste de ce que ça pouvait être, il y en a bien d'autres. Naturellement qu'il y en a bien d'autres, mais une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur nous demande de réfléchir à tout cela. C'est le moment. Moi, je crois personnellement que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où on voit bien les choses se dégradent, à travers des pandémies, à travers, là, eh bien, même si les hommes ont des capacités extraordinaires, c'est vrai, il faut le reconnaître, on n'est pas contre, eh bien là, la gestion de notre monde, on n'est pas contre ceux qui sont au pouvoir, on n'est pas contre, eh bien, les moyens qui nous sont offerts aujourd'hui et assez développés, comme la médecine et autre chose. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça, c'est le monde des hommes. Et la Bible nous le présente comme des sables mouvants, tout ça. Hein, on peut mettre notre confiance jusqu'à une certaine limite, mais la confiance suprême, elle est en Dieu. quoi qu'il en soit. Hein, nous sommes venus de Dieu, nous retournons à Dieu, dans la mesure où véritablement nous lui faisons confiance. Et cette vie qu'il nous a prêtée, je dis bien prêtée, qu'il nous a allouée, nous pourrions peut-être ajouter, eh bien cette vie, elle retournera tout simplement à celui qui est notre Créateur. C'est ce que le livre de l'Ecclésiaste nous dit. Hein. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, eh bien, l'âme humaine, l'esprit humain, retourne à celui qui l'a créé. Alors, c'est soit pour le jugement, alors à ce moment-là, on connaît la suite, ou soit pour le salut, d'une manière ou d'une autre. C'est soit l'application de la loi, dans le premier cas, et là, qui dit loi dit condamnation et jugement, ou alors, c'est la grâce où toutes nos fautes, tout ce que nous avons été, les erreurs que nous avons commises, à travers les voies sans issue dans lesquelles nous nous sommes engagés, où, comme le Fils prodigue, eh bien, nous revenons vers celui qui est notre Père céleste, alors à ce moment-là, eh bien, cette grâce, eh bien, elle nous est offerte dans la mesure où nous la saisissons. Les sables mouvants sont tout autour de nous. Nous n'avons pas, finalement, à craindre, hein, mais il ne faut surtout pas s'y aventurer. Parce qu'à partir du moment où nous sommes aventurés, comme Jésus le dira dans Jean chapitre 8, il dira que celui qui se livre au péché devient l'esclave du péché. C'est-à-dire qu'après, c'est plus difficile. On peut s'imaginer le Fils prodigue, quand il a voulu revenir, ce n'était pas simple. Il était tellement maculé de boue, tellement... oui, parce qu'il vivait, on peut dire, avec les pourceaux, hein, à un moment donné. Hein. Et il a eu le courage de dire, « Eh bien, moi, j'irai, je retournerai. Hein. » Il s'est repenti, il est revenu vers son père, qui ne l'a pas refusé, qui l'a accueilli, pour lui donner, eh bien là, une vie nouvelle, quoi qu'il en soit. Alors, dans le marécage de notre société, que j'ai essayé, tant bien que mal, finalement, eh bien, à apporter à votre réflexion nos sociétés d'aujourd'hui, celles, le jour d'aujourd'hui, qui est le nôtre, Jésus nous avertit. Il nous dit cette parole, elle est très claire, elle est très connue également. Il dira, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je répète, que servirait-il à un homme, quel qu'il soit, peut-être un chef militaire comme nous en avons aujourd'hui, qui sont en train de vouloir dominer le monde, comme il y en a eu finalement eh bien, déjà avant, dans les temps passés. Que ce soit là, eh bien, je ne sais quel autre personnage qui pourrait apparaître, mais que ce soit l'argent, que ce soit d'autres valeurs, mais qui sont des valeurs pour la terre, qui nous servent maintenant, dans la mesure où nous ne faisons pas d'excès, c'est-à-dire que nous ne soyons pas excessifs. Alors, qu'est-ce que cela pourrait servir à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Parce qu'il y a là véritablement eh bien, une réflexion à faire entre le monde, la vie, et puis l'âme. Je crois que c'est une autre dimension, la vie c'est la terre. Tout simplement à travers le corps, le matériel, le physique, et puis l'âme c'est une autre dimension avec l'esprit, tout simplement. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et je pense que ça tiendrait plutôt d'un message d'évangélisation, hein, naturellement, pour nous amener, nous pousser à la réflexion, et de choisir, de faire le choix de Jésus dans notre vie. Et c'est tout simple, c'est tout simplement de lui laisser la place dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre conscience, et de l'inviter, finalement, et bien là, à nous mettre comme nous l'avons vu, eh bien, celui qui a bâti sa maison, celui qui a bâti sa vie, eh bien, sur le roc, c'est celui-là. Les tempêtes vont venir, les ouragans, toutes sortes de choses, la pluie, avec tous ses déferlements, eh bien, elle va venir, mais il restera solidement. Il ne sera plus sur un terrain comme les sables mouvants, mais il sera tenu solidement. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et que nous nous reverrons d'ici peu de temps pour un autre message, soit en vidéo, soit en audio, sur Bible Espoir ou la cale aux mille trésors. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse particulièrement, et à bientôt. Merci.